Bonjour à tous, vous êtes sur Fréquence Mistral, c'est l'heure de notre émission quotidienne sur les correspondances de Manosque. Nous retrouvons François Malabave et ses invités pour une heure correspondance. Bonjour François.
Bonjour Amandine, bonjour à tous et bienvenue évidemment pour cette émission sur les correspondances de Manosque. Aujourd'hui, en prévision de ce week-end ensoleillé et littéraire qui s'annonce à Manosque, nous entendrons dans notre émission, bien sûr, Olivier Chaudançon parler du programme de ce week-end. J'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir un grand musicien, mais qui est aussi un spectateur. Nous verrons ça avec lui. Il s'agit de Mahu. Nous entendrons aussi notre ami James qui va être en concert avec juste avant que les mots sonnent. Et puis, Olivier Adam qui a participé à la création et à la fondation des correspondances sera aussi notre invité. On parlera évidemment littérature avec Olivier Adam, et bien sûr, et deux autres auteurs sont invités, Thomas B. Reverdy et Thierry Froger, pour cette belle émission sur les correspondances de Manosque. Et on peut tout de suite ouvrir les hostilités ou les réjouissances, comme vous voulez, avec Olivier Chaudançon pour le programme de ce week-end.
Olivier Chaudançon, le week-end de la 20e édition s'annonce brillant.
Chargé surtout, chargé. Dès samedi matin, 11h, on a une lecture au Paris, on a évidemment les apéros littéraires avec Dibollet et Chloé Cormand. On a à 11h, à l'endroit où se trouve l'exposition introspective de François-Xavier Emery, une personnalité qu'on aime beaucoup, Joe Ross, qui vient nous livrer les souvenirs des 20 ans du festival. Il a assisté au tout premier et il accepte même, il demande même aux manosquins de venir avec leurs propres souvenirs. Une histoire, une image, une photo, voilà. Je livre ça pour ceux que ça pourrait intéresser. Dans l'après-midi, première salve de rencontres, si j'ose dire, en mentionnant au passage les siestes littéraires, mais à 15h, on pourra choisir entre Jérôme Ferrari, que l'on aime beaucoup, qui est venu souvent, ancien prix Goncourt, Nina Bouraoui, qui elle vient très rarement, elle n'aime pas les endroits publics, elle ne s'y sent pas à l'aise plus exactement, donc on est heureux qu'elle nous ait fait la confiance d'accepter de venir parler en public de son nouveau livre, magnifique par ailleurs. Marie-Fleur Albecker et Bruce Bougou en débat. Une lecture, Hubert Nissen, porté par Xavier Gallet et Mélanie Traversier, deux comédiens, une rareté puisque c'est une correspondance inédite que l'on fera entendre au conservatoire. Je précise, correspondance avec Nina Berberova. À 16h30, plusieurs duos, Guy Bollet en dialogue avec Christophe Boltanski, on les connaît l'un et l'autre, Gwenaëlle Aubry et Nathalie Léger, Thierry Froger qui nous fera partager les nuits d'Ava Gardner, si j'ose dire, Fab Caro, tout le monde ne le connaît peut-être pas, c'est un auteur de romans graphiques et de BD qui est absolument génialissime, j'ai rarement vu aussi drôle, il a un album qui s'appelle Zai 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 Zai, qui marche très très bien à juste titre, donc on l'entendra parler de ce travail graphique et aussi en prémisse leur premier roman à paraître. Et puis à 18h, là je ne sais pas comment vous allez faire votre choix parce que place de l'Hôtel de Ville, il y aura une sorte de joute, de battle entre Dany Laferrière et Alain Maboncou. Une joute amicale puisqu'ils sont très très proches et très complices. Il y aura, je pense, un débat passionnant entre Olivier Adam, habitué fondateur des correspondances, et Nicolas Mathieu, qui est pour moi une des révélations de cette rentrée littéraire avec leur livre « Leurs enfants après eux ». Et je pense qu'ils auront beaucoup de choses à se dire sur les lisières, les endroits un peu oubliés par la littérature, voilà. Laurence Cosset et Marc Green, sur un autre sujet, que je ne développerai pas parce qu'il y a trop de choses. Philippe Vassé, lecture avec projection de film. Maëlys de Kerangal, qui lira des extraits de son nouveau livre. 19h30, François Hansi Atlas Mountain, pour ceux qui connaissent le groupe. Très beau projet de mise en musique de Baudelaire. Ça va être un magnifique concert littéraire. Ça se passe au Café Provisoire à 19h30. Et puis les soirées, les grandes soirées, 21h au Théâtre Jean Le Bleu. Laurent Poitrenaud et Dominique Raymond, deux lecteurs d'exception pour la correspondance entre Simone de Beauvoir et Nelson Algren. Et puis, deuxième partie de soirée, toujours au théâtre, à 22h45, Rodolphe Burger et Bertrand Belin, deux habitués de correspondance qui vont nous faire un concert littéraire centré sur la figure de quelqu'un que nous aimions beaucoup, Paolo Tchaikovsky-Laurence, dit POL, patron des éditions POL, maison d'édition sans doute une des plus importantes en littérature contemporaine, qui nous a quittés l'année dernière, qui est un habitué des correspondances, un joyeux convive, et on a voulu lui rendre un hommage le plus vivant possible en musique et en texte. Dimanche, 11h, apéro littéraire, François Bégodeau et Serge Joncourt. 11h aussi, dialogue direct entre Maïlys de Carangal et le grand historien Patrick Boucheron. On poursuit la journée à 15h avec Serge Goncourt. Un tout petit peu plus tôt, 14h30, Emmanuel Bayamaktam. C'est aussi un des grands livres de la rentrée. Je vais pas le dire à chaque fois que je nomme un auteur, mais celui-ci est vraiment singulier et fort. 15h, Pauline Delabroix à l'art. Ça, c'est un des premiers romans de la rentrée dont on parle le plus. Ça raconte Sarah. C'est publié aux éditions de Minuit. Et puis Joachim Schnerf, qui a obtenu le prix Orange cette année et que l'on salue. Les siestes acoustiques et littéraires, c'est une habitude. En 5 jours, je pense que chacun aura eu le temps d'y aller au moins une fois. 16h30, Anne-Marie Gara. À la même heure, Meriem Alaoui et Incoli Jean Bofan, qui s'intéressent l'un et l'autre au Maroc et à Casablanca en particulier. À 16h30, Patrice Pluyette. À 16h30 aussi, Bertrand Schaeffer, lecture et projection. Je vais vite, mais après il faut se reporter au programme. Et puis, le bouquet final, c'est 20 ans, le live magazine des correspondances. Alors là, c'est une sorte de journal parlé. Une dizaine d'auteurs, d'artistes viennent et ont 10 minutes pour nous raconter une histoire exceptionnelle, réelle ou inventée ou à moitié inventée. Alors on va y retrouver des auteurs que l'on aime beaucoup et qui ont un vrai talent pour raconter. Miguel Bonnefoy, Dany Laferrière, Maïlys de Carangal. On va rencontrer des gens assez drôles comme Clémentine Mélois, qui est une plasticienne et qui détourne des livres et qui fait toutes sortes de choses très rigolotes. On va y retrouver Arthur H. qui nous fait l'amitié de revenir aux correspondances. Voilà, donc ça va être un moment plein de surprises, quelque chose qui ne ressemble à rien d'autre.
Et quelque chose qui ne ressemble à rien d'autre, c'est aussi l'émission radio que nous faisons tous les jours en direct des correspondances. Et c'est le cas actuellement. J'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir un grand monsieur par la taille et par le talent. Il s'agit de Mahu, qui est l'énigmatique docteur Mahu. Bonjour Mahu.
Bonjour.
Il faudra vous rapprocher un petit peu de votre micro, s'il vous plaît.
Je vais rapprocher le micro.
Je vais rappeler très brièvement la carrière de Mahu et surtout les fréquentations de Mahu musicales.
Ça m'intéresse parce que
Jacques Higelin.
J'ai pas de mémoire, donc.
Ça vous rappelle quelque chose, Jacques Higelin?
Ça me dit quelque chose.
Bernard Lavillier aussi. Et puis Barbara, une grande dame aussi. C'est un percussionniste, mais qui, on peut pas vraiment dire qu'il joue des congas, il les caresse, ces congas. C'est un truc un peu particulier, c'est un jeu très, très charnel, très, très sensuel, que vous avez un rapport très particulier avec les peaux de vos instruments. Vous avez joué, c'était jeudi soir, c'était un hommage, un clin d'œil en tout cas, un grand monsieur, Jacques Higelin, que vous avez accompagné pendant des années. Mathieu Amalric, qui a lu un texte, les lettres d'un jeune homme de 20 ans, très émouvant, très beau texte de Jacques Higelin, et puis sur la scène de Manosque, où Jacques Higelin s'était produit il y a 20 ans avec ce même texte, donc un moment particulier. Vous aviez amené votre batterie d'instruments, Mahu, hein, c'est-à-dire des instruments du monde entier, berimbau, sansa, conga bien sûr, gong, j'en oublie.
Sans doute, mais
peut-être.
Moi aussi, donc c'est pas grave, c'est un peu... à chaque fois différent, quoi. J'amène des choses comme on amène des ingrédients pour faire la cuisine, et puis voilà, quoi.
Et puis vous avez fait une sauce derrière qui était magnifique, derrière le texte de Higelin avec Mathieu Amalric, très en forme aussi, et c'était très très émouvant. Vous mêlez aussi à vos instruments l'informatique, ça c'est assez,
non, mais
assez récent.
Ça paraît compliqué, mais c'est très très simple en fait. Je prépare des boucles, comme on dit, des séquences qui reviennent, des choses très très simples et qui en fait, c'est comme on commence un tableau, on fait pour salir un peu pour créer un espace dans lequel on pourra évoluer plus tard, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple, des nappes, quoi, des boucles.
Et en même temps, ça apporte évidemment sur le son, sur le texte qui est dit. Vous avez joué Mahut avec du Bollinge dans votre vie, et vous avez forcément donc fréquenté aussi bien Lavilliers, Barbara que Jacques Higelin dans leur vie privée. Qu'est-ce que vous retenez de ces contacts avec ces grands artistes?
Quelle drôle de question, mais qu'est-ce que je retiens à vrai dire, je ne sais pas quoi vous dire.
Un rapport amical?
Oui, bien sûr, bien sûr. C'est un... En fait, je me suis retrouvé accompagné ces personnes de manière complètement... C'est un peu un hasard. Je suis monté dans ce train et je me retrouve 40 ans après. En fait, c'est un peu comme une promenade, quoi. J'ai accompagné ces gens comme on peut se promener dans une forêt avec eux. Des fois, on est un peu en avant, des fois on est un peu en arrière, on suit un... Mais on reste toujours dans son... En fait, c'est deux intimités qui se côtoient, mais c'est pas... Bien sûr, il y a de l'amitié, mais c'est... Il y a aussi le lieu qui est particulier, la scène. Et...
Mais ça, c'est uniquement le lieu qui est visible par le public. C'est l'autre côté du rideau, moi, qui m'intéresse. Effectivement, quand vous êtes en tournée ou quand vous allez répéter chez les musiciens, ce sont des instants privilégiés avec ces créateurs.
Oui, sans doute, mais c'est du travail.
C'est naturel
pour vous. C'est du travail. C'est vraiment... Voilà, on essaye de trouver des accointances, des choses qui peuvent se... En fait, on est dans le même temps. C'est un peu comme John Cage et Cunningham. Ils travaillaient des pièces ensemble, mais ils étaient chacun dans leur monde. Ils partageaient un temps. Ils partageaient le même temps, quoi.
Sur scène, on vous connaît souvent avec vos lunettes noires, votre surnom évidemment, les deux surnoms, l'énigmatique et le docteur. Peut-être que ça vous énerve aussi, ça, cette
non,
vision
non, sans
caricaturée.
Doute, c'est sans doute un de mon fait. C'est une façon de c'est une sorte de masque.
Voilà. Vous avez des souvenirs de cette soirée de 1999?
Alors oui, enfin. J'en parlais l'autre jour avec Olivier Chaudançon, et en fait moi je me souviens très très bien de d'Anouk Grimbert qui, moi je dans mon souvenir, Anouk devait être juste après Jacques, et Jacques est resté 4 heures en scène au lieu d'1h10, donc je me souviens d'elle très énervée, quoi. Et Olivier n'a pas du tout ce souvenir-là. Il me dit, mais non, Anouk était très contente. Elle passait le lendemain, mais je ne sais pas. Peut-être
que tu t'en souviens. Un autre témoin de ce temps-là, c'est Olivier Adam, bien sûr.
Techniquement, Anouk Grimbert était effectivement dans la même salle, mais un autre jour. Parce qu'elle disait, inconnue à cette adresse, qui est devenue de Cressman Taylor, qui est devenue après... Et alors, on s'était honoré avec Olivier d'avoir découvert un peu ce texte paru chez Autrement à l'époque. Personne ne le connaissait. Et l'avoir soumis à Anouk Grimbert, qui en avait fait une très belle lecture. Mais c'était du coup les fameuses soirées de 21h.
Je ne sais pas, elle devait être énervée par autre chose.
Effectivement, ça avait duré 4 heures et ce n'était pas du tout programmé comme ça. Mais les gens restaient en grande partie et c'était devenu... Jacques lisait, chantait, racontait des anecdotes, débordait, s'emballait, se calmait. Enfin, c'était une espèce de grande marée comme ça qui n'en finissait pas, mais tout le monde en demandait.
C'était un moment fondateur aussi, Olivier, pour les correspondances, oui, de dire tiens, on mêle la musique et les textes.
À plus d'un titre, parce que quand on est arrivé ici avec Olivier Chaudançon, l'idée c'était quand même de dépoussiérer le festival littéraire qu'on connaissait habituellement, en proposant aux auteurs de lire, de se frotter à la musique, de se frotter à l'art contemporain, à la danse, enfin à ce qu'ils voulaient, de les mettre en scène dans de bonnes conditions, comme dans la petite salle du théâtre Jean Lebleu, où voilà, c'est pas, ils font pas une lecture dehors, voilà, ils sont sur une scène de théâtre. Et puis avec Olivier, c'était notre marotte, quoi. Vraiment notre marotte, c'était les liens entre la musique et la littérature. Comment les chanteurs qu'on admirait, lui et moi, qui étaient en gros les mêmes, nous paraissaient dans leurs textes être eux-mêmes des auteurs. Et on se disait que forcément, ils avaient quelque chose à voir avec la littérature. Et donc, dès la première année, convoquer quelqu'un qui faisait les deux, qui avait écrit ce livre, et qui était un chanteur, et qui était un auteur, qui était très important pour Olivier comme pour moi dans notre formation, dans notre parcours aussi d'amateur de musique, c'était emblématique d'emblée. Et puis c'était aussi un hasard presque, hein, parce que faut se rappeler que quand on est arrivé, nous, quand on appelait les attachés de presse et les agents, personne connaissait ce festival puisque c'était sa première année.
Ce qui a bien changé.
Et,
c'est bien.
Et avec Olivier, on travaillait dans une structure qui travaillait aussi pour le Printemps de Bourges et donc pour Daniel Colling, qui avait des liens privilégiés avec Jacques. Et c'est vraiment comme ça qu'on l'a eu, entre guillemets, parce que c'était quasiment impossible de toucher quelqu'un comme lui pour une première édition d'un festival qui était tout petit à l'époque. Moi, ce que je me souviens, c'est qu'on était paniqués parce que une heure avant d'entrer en scène, il a décrété qu'il n'entrerait pas en scène et qu'il avait un coup de panique. Et globalement, il s'était pas bien équipé en matière de trucs à fumer. Et donc, il nous a dit, en gros, il faut nous trouver, faut me trouver de l'herbe là dans l'heure qui suit, sinon je monte pas.
Ouais, c'est drôle parce qu'il n'était pas très consommateur.
Là, c'était ça, quoi. Ça aurait pu être n'importe quoi. Ça aurait pu être une bouteille d'alcool de je sais pas quoi. Ça aurait pu être une pierre. Je sais quoi. Il fallait. En tout cas, il y a eu un espèce de moment de panique comme ça. Nous arrivons, singulièrement moi à ce moment-là, parce que c'est moi qui me suis retrouvé avec cette affaire, demandant à la personne qui était la permanente à Manosque, puisque nous on était parisiens, le bureau était à Paris avec Olivier, demandant à la personne qui était la permanente ici, Rosine,
est-ce qu'il y a un fournisseur,
de trouver, d'activer ses réseaux pour ramener un petit sachet en vitesse.
Bon, c'est la petite histoire cette soirée de 99. Mahut, vous nous avez beaucoup émus jeudi soir en disant simplement une date, c'était 2 janvier 2012. Racontez-nous.
Oui, ça c'est... En fait, Jacques, il avait toujours un petit dictaphone avec lui et dans des endroits complètement... Voilà, des fois, dans un restaurant ou dans un train, il se mettait à chanter ou à hurler des choses qui lui venaient. Et là, c'est simplement, comme on a complètement repris toutes ces cassettes, on les a numérisées. J'ai un peu fouillé dans tout ça. En fait, c'est toutes ces cassettes me servaient quand les derniers temps, pour les 3-4 derniers albums, quand on cherchait des pistes pour des nouvelles chansons. Et ça, c'en était une pour l'éventuel futur prochain, quoi.
C'était juste une ritournelle au piano et puis cette voix qui chantonnait.
Il est chez lui et en fait parce qu'il voulait, il était totalement en foutraque, il savait jamais quel jour on était, mais il avait une obsession des dates il voulait savoir l'heure exacte, en fait. Il était vraiment extrêmement attaché à ça, quoi. Et il archivait absolument tout. Le moindre papier sur lequel une nappe de resto où il écrivait 3 mots, il les découpait, il les archivait dans un grand classeur, comme ça, il y en a des tonnes chez lui, enfin.
C'était un grand moment, et puis en même temps, c'est lui qui a clôturé cette soirée. C'était magique, sur quelque chose qu'on n'entendra jamais ailleurs. C'est ça aussi, quand je disais passer de l'autre côté du rideau, c'est ces moments que vous avez vécus qui sont importants, aussi bien artistiquement que humainement. Et ce soir, je crois aussi que vous allez officier, Mahut.
Bah oui, c'est Rodolphe Burger et Bertrand Belin donc font un hommage à POL et comme je suis là, je reste là et je viens sur scène avec eux quoi.
Avec vos instruments. Bien sûr, donc ça va être aussi un grand moment d'émotion. Là aussi, c'est en l'absence de quelqu'un qu'on appréciait ici à Manosque, et évidemment qui était apprécié par le monde des lettres et bien au-delà. Et donc, vous allez participer à cette soirée avec Rodolphe Burger et Bertrand Belin. Là aussi, Olivier, c'est deux personnages, deux musiciens qui accompagnent les correspondances depuis des années. Je me souviens des concerts de Rodolphe et puis bien sûr Bertrand Belin, merveilleux musicien qui se met à l'écriture aussi de manière
il s'y met pour de vrai. Hein. Oui. Il a publié deux romans chez POL justement. Donc c'est un excellent auteur.
Oui, vraiment.
Qui est passionnant, son travail littéraire est aussi passionnant. Oui. Enfin, je ne peux rien dire aussi passionnant, mais moi je l'adore en tant que chanteur. Et d'ailleurs, quand on le voit sur scène, on voit les prémices de ça, parce qu'entre deux chansons, il a un système de textes qui semblent improvisés, mais qui ne le sont pas, qui sont semi-écrits et qui donnent la tonalité de ce qu'il écrit maintenant, de ce qu'on peut trouver dans un texte comme Requin, ou j'ai oublié le titre de l'autre, mais les deux livres qu'il a publiés chez POL.
Donc c'est ce soir à Manosque, évidemment. Alors le problème, c'est qu'il y a très très peu de place, puisque c'est dans un endroit un peu restreint, c'est au Café Provisoire à Manosque.
Je crois que... Je suis désolé de vous corriger, mais c'est dans la grande salle.
C'est trop,
salle. Voilà, donc
trop
là pour le coup, il y aura, comme Julia Darmanet le premier soir, et Barbara Carlotti, c'est dans la grande salle suite à la lecture de Laurent Poitrenaud et Dominique Raymond.
Qui ne durera pas 4 heures.
Ou alors, à la lecture Bertrand, Rodolphe et Mahut pourront râler.
Sûr, parce que, en fait, la dernière fois que j'ai vu Laurent Poitrenaud, il a tenté de dire le dernier Grégoire Bouillet.
Il fait 2 fois 1000 pages.
Il a lu de 8h30 à 6h du matin à la Maison de la Poésie, sans arriver d'ailleurs à épuiser le tome 2.
Oui, ça fait 2 fois 1 million de signes.
Ouais. Peut-être aussi. En tout cas, bon, c'est une bonne chose. Donc, c'est bien, c'est une bonne information. Je n'avais pas bien lu le programme.
Je ne travaille plus en correspondance, mais je suis encore
parfait,
au taquet.
C'est parfait. Merci encore, Olivier. Merci aussi, Mahut, de votre présence. Et puis, continuez à accompagner et à ambiancer avec vos doigts et vos oreilles cette musique particulière que vous donnez à tous ces auteurs et qui nous ont fait rêver et qui continueront à nous faire rêver. Vous avez des projets avec d'autres personnages de la musique?
Oui, là, en fait, Lavilliers a envie qu'on fasse des concerts en duo, donc on va sans doute faire ça.
J'en ai déjà vu un, moi.
Oui, on en
donc
a
c'est déjà à la Maison de la Poésie. Voilà, c'est absolument formidable. Juste Lavilliers et Mahut.
Guitare et percussion.
Guitare et percussion.
Et pour en revenir à cette idée qu'a eu Olivier de reprendre ce livre de constituer des lettres de Jacques Higelin à sa fiancée de l'époque, je trouve que c'est un finalement je me disais hier que ces lettres trouvent réellement leur vrai destinataire maintenant quoi, parce que on sait très bien que quand on a 20 ans on écrit souvent, enfin les lettres d'amour, c'est souvent des lettres qu'on s'écrit à soi-même. D'ailleurs, il le dit au départ en citant, je crois, Saint-Exupéry. Quand on lit entre les lignes, on voit bien que Jacques pense déjà à la postérité, quoi. Et je pense qu'il serait aux anges, c'est le cas de le dire, si savait que ces lettres ont été lues devant, je sais pas, 800 personnes, comme ça.
Oui, la salle était entièrement pleine et c'était un public comblé en plus, c'est le cas de le dire. Un grand moment qu'on a vécu ici à Manosque, grâce à vous, Mahut, grâce à Mathieu Amalric et bien sûr grâce au grand Jacques.
À Olivier.
Et Olivier. Donc voilà, toute l'équipe, la boucle est bouclée, c'est une bonne chose. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. On va écouter un de nos collègues de la radio qui s'appelle James Fontaine et qui a monté un spectacle littéraire, poétique et musical et qui donne une lecture musicale tout à l'heure à 19h avec ses amis, juste avant que les mots sonnent. C'est au Goût du Livre, à la place de l'Hôtel de Ville, c'est à 19h et j'ai interviewé donc un de mes confrères et collègues, une voix bien connue par les auditeurs de Fréquence Mistral.
C'est une voix bien connue sur notre antenne et c'est un ami de la radio, évidemment, James Fontaine. James Fontaine qui va se produire dans le cadre des correspondances, même si c'est dans le off. James, qu'est-ce que ça représente pour toi, cette prestation dans le off?
Ah, alors, juste avant que les mots sonnent, donc, le trio de poésie rock dont je suis le créateur, on va dire l'initiateur, et puis les deux autres amis qui me rejoignent, un bassiste et un guitariste, donc Thomas Stabile et Damien Fiorani, nous avons, on va dire, un projet d'action poétique, c'est-à-dire que j'ai commencé à écrire des poèmes. Ensuite, ma formation de musicien m'a donné envie de mettre en musique. Je suis pas forcément un grand compositeur, donc je me suis entouré de musiciens avec qui j'ai travaillé dans une action collective et qui a pour but de partager, parce qu'en fait, tout ça, c'est une histoire de rencontre. Donc, la rencontre des musiciens qui vont rencontrer les autres, c'est-à-dire le public. On a envie de partager nos textes, on regarde le monde, on voit le monde, et puis on a envie de le décrire, de dire ce qu'on ressent, de partager nos rêves aussi, et nos points de vue, et le public nous le rend bien, quoi.
Et là, c'est dans le cadre des correspondances de Manosque.
C'est sûr que les correspondances, pour nous, ça représente un magnifique événement. C'est une manifestation où il y a de la joie pour ceux qui y participent et puis pour ceux qui sont aussi spectateurs, des fois un petit peu intrigués parce que bon, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, qui n'ont pas forcément le comportement habituel. Les rues se transforment un petit peu. D'ailleurs, ça pourrait même inspirer, je pense, les services culturels de la ville pour essayer d'animer peut-être autrement la ville avec des projets culturels qui, oui, qui donnent de la vie. Alors effectivement, c'est une manifestation, moi, qui m'enchante, en fait. Alors parce que déjà, je vais y voir des spectacles avec des gens, des têtes d'affiches qui sont quand même très intéressantes tous les ans. Il y a des Arthur Ashe, des Jacques Gamblin, il y a des comédiens, donc des musiciens. Cette année, on va voir Dominique A, par exemple. Bon. Donc du coup, moi, ça m'intéresse d'aller voir aussi des collègues. Je suis pas tête d'affiche, mais je suis content de voir des gens qui font la même chose que moi et peut-être qui m'inspirent aussi quelque part.
Et puis également, c'est l'occasion de mettre l'accent sur un lieu particulier à Manosque, place de l'Hôtel de Ville.
Oui, le bouquiniste Manuel de l'Hôtel de Ville nous a proposé de venir jouer avec le trio le 29 septembre à 19h. Donc on est sur le programme off des correspondances pour présenter donc notre projet. Alors bon, bah, notre projet, il est initié depuis 2012, hein, donc il a déjà pas mal roulé. Il a évolué, donc c'est parti de textes que j'ai écrits, qui a donné lieu à un recueil aux éditions du Pont Saint-Jean. Et puis, ces textes ont été mis en musique, je les interprète, je les chante, je les slame, je les déclame, je les vis, je les sens, je les respire, je les expire.
Enfin, voilà. Tu les mords?
Je les mords, oui, non, on a fait une création, on la donne, on est entier, c'est 1h30 de concert. Qu'on joue dans des petits endroits ou des grands endroits, on a fait quand même quelques belles scènes. Et bon, alors, on n'a pas fait le Zénith, hein, c'est pas le genre d'endroit, mais on est allé jouer au Festif de Font-Robert, on a joué au Centre Culturel René-Char, on a fait quand même quelques scènes plutôt sympathiques, des vraies scènes, qu'on a joué évidemment au Café Quoi, qui est devenu une vraie scène actuelle, on va dire. Voilà, des choses comme ça. Puis on a été joué aussi à Paris, on a été joué un peu dans des endroits autres qu'ici. Mais bon, on aimerait bien un petit peu sortir du département, sauf pour les correspondances. Parce que c'est à Manosque, c'est chez nous, et puis c'est quand même une manifestation magnifique. Et pour en revenir donc au goût du livre, donc Emmanuel qui nous invite à jouer. Donc Emmanuel, c'est le tenancier du lieu. Il nous invite à venir jouer notre spectacle, qui est quand même un spectacle de poésie. Il y a une approche poétique, enfin une approche d'écriture poétique, et puis on le vit de manière assez rock, puisque les compositions, elles sont beaucoup initiées, enfin en tout cas nos idoles, c'est Bachung, nos idoles, c'est Léo Ferré, Higelin, des gens qui ont vraiment marqué cette audace de s'exprimer un peu autrement. Je veux dire, en 100 ans, Léo Ferré, quand il a commencé à déclamer des poèmes pendant 20 minutes en s'accompagnant au piano, c'était quand même assez gonflé. C'est un des premiers qui, avec ses bandes, quand il s'est fâché avec Barclay, qui a pris ses bandes en disant « Moi, je prends mes bandes et puis je chante comme ça. » Donc, on peut dire que c'est un des premiers slameurs, chanteurs slameurs. Ensuite, oui, des gens comme Higelin, Thiéphaine, tout ça. Enfin bref, on est toujours inspiré par des gens, puis on a surtout envie d'être nous-mêmes. Venez, venez, vous verrez.
Les artistes du cru, oui. Et c'est donc le samedi 29 septembre à 19h, juste avant que les mots sonnent, c'est au goût du livre, place de l'Hôtel de Ville à Manosque. Merci James.
Merci.
Et le 29 septembre, c'est aujourd'hui, c'est donc tout à l'heure que vous pouvez écouter James, et juste avant que les mots sonnent. Olivier Adam, on a dit effectivement, vous faisiez partie de l'équipe fondatrice des correspondances avec Olivier Chaudançon, on va citer aussi Charles Robillard, mais aussi Jean Digne, qui ne sont plus dans l'équipe. C'était un pari risqué quand même de faire un festival littéraire. Et vous avez trouvé l'oreille attentive ici à Manosque de Robert Ronde, un ancien maire de Manosque que je voudrais saluer aussi.
Tout à fait,
avec beaucoup d'émotion.
On avait créé un festival un peu voisin qui s'appelait les Nuits de la Correspondance à Grignan et dont je m'occupais. Je fais 3 ans là-bas et puis on s'est fait virer pour des raisons politiques sur lesquelles je ne vais pas m'étendre parce que c'est des vieilles histoires, des histoires de l'administration de la région avec
la
voix du Front National, etc. Enfin bon.
Oui, c'était en.
C'était pas gay, quoi. Hein. C'était le RPR old school. C'est pas beaucoup mieux aujourd'hui, mais bon, en tout cas, c'était des grenouillages comme ça. Et on a été accueillis à bras ouverts par Robert Ronde, par l'intermédiaire de Jean Digne à l'époque, à Manosque, qui souhaitait animer quelque chose autour d'un programme qui s'appelait Manosque Ville du Livre, profiter évidemment de. Voilà, l'ombre
tutélaire
de Genot,
oui.
Pour fédérer un peu tous les acteurs du livre locaux et donner un temps d'éclairage comme ça. Et on a eu absolument carte blanche pour, sur ce mot-clé qui est la correspondance, qui voulait dire à la fois l'épistolaire, mais qui voulait dire aussi et surtout les croisements, les hybridations, les manières dont les artistes s'inspirent les uns les autres, travaillent les uns les autres. Et avec cette idée qu'on avait avec Olivier, surtout, qui était d'être en rupture avec la manière présenter les livres, c'est-à-dire les foires du livre, les salons du livre, ça nous emmerdait, et on voulait faire quelque chose qui s'apparente à un festival. Construire un festival, au sens scénique du terme, au sens foisonnement des propositions du terme, autour de la littérature. Alors aujourd'hui, il y en a plein d'autres qui se sont constitués, mais à l'époque, c'était totalement pionnier, on était un peu les seuls à faire ça, ou voilà. Et en convoquant la littérature dans une dimension vivante parce que les auteurs se produisent sur scène, mais aussi parce qu'on montre à quel point la littérature est contemporaine, et c'est pas toujours si évident que ça, notamment chez le jeune public, du cinéma, de la chanson, du rock, du rap, de la photo, enfin de voilà, montrer que c'était vraiment vivant et pas dans la poussière des bibliothèques.
On sent bien 20 ans après d'ailleurs que vous ne vous êtes pas trompé, c'est-à-dire que le public plébiscite les rencontres.
C'est surtout que avec Olivier, on avait imaginé ça sans penser que ça prendrait une telle ampleur. Et moi, quand je reviens régulièrement, soit pour une date anniversaire, soit à l'occasion de la publication de mes nouveaux livres, parce qu'on continue à m'inviter en ma qualité d'ancien. Voilà, moi je suis émerveillé de voir que un truc qu'on avait juste rêvé est devenu, a même dépassé nos espérances. Quand je vois, on en parlait tout à l'heure, qu'il y a 4 ou 5 trucs programmés en même temps dans des endroits avec des jauges très importantes et que tout est plein et avec une qualité de programmation, je peux le dire parce que j'y participe plus, qui est toujours aussi exigeante et au top, c'est incroyable. Moi, je rappelle que les premières années, les cafés littéraires, il y en avait un à la fois, il se tenait à la terrasse de la Barbotine ou du café qui maintenant s'appelle Gusto, ou la terrasse du Cigaloun, et je peux vous dire qu'on gênait les gens qui étaient là pour boire des verres, hein. Et que quand il se mettait à pleuvoir, quand on rentrait à l'intérieur de la Barbotine ou du Cigaloun, il suffisait de prendre un quart de la salle pour avoir nos spectateurs. Les lectures du soir, on en a parlé avec Anouk Grimbert, avec Jacques Higelin, avec Jacques Gamblin, les années qui ont suivi, faisaient déjà le plein. Et puis aussi au Café Provisoire, les programmes qu'on faisait autour de la musique, avec Dominica, avec Miossec, avec Serge Tessoguet, avec enfin, tous ceux qui ont participé à ce festival, faisaient déjà le plein. Mais finalement, tout ce qui était de l'ordre du spectacle marchait très très bien. Et alors que ce qui nous importait le plus, c'était quand même de mettre à l'honneur les auteurs. Et ça s'est fait au fil des années. À un moment donné, on a vu que la petite salle du Jean Lebleu, on pouvait plus y rentrer, tellement elle était
trop
pleine
petite.
En permanence.
Ouais.
On a vu que le soir, le Café Provisoire, c'était plein. Et puis on a vu la place de l'Hôtel de Ville se remplir tellement qu'il a fallu ouvrir la place Marcel Pagnol, qui s'est remplie aussi tellement qu'il a fallu ouvrir une troisième place, une quatrième place. Et voilà, ça a grandi comme ça. avec cette chose qu'on donne vraiment le temps aux auteurs de s'exprimer. Enfin, on donne, moi je dis on, parce que j'ai encore l'impression d'y être.
Mais c'est bien, c'est bien.
Bah, c'était ça, le projet, voilà.
Avec également les écritoires, notamment de Jean Lautré, qui ont fait les belles heures aussi pour le public en tout cas, et de redonner envie aux gens d'écrire soit des lettres d'amour, soit des lettres d'insultes, peu importe, mais en tout cas de pratiquer l'écriture, et puis après, effectivement, de participer à des spectacles ou alors d'assister à des rencontres littéraires, ce qui est un bonheur toujours sur les places de Manosque, avec en plus pour cette édition un soleil radieux, c'est une bonne chose. Votre actualité littéraire, Olivier, on vous suit évidemment, vous avez arrêté de travailler pour les correspondances, même si vous avez gardé cette fibre particulière. Vous êtes un auteur de premier plan en France, avec des livres de grande qualité qui ont été pour beaucoup adaptés au cinéma. On vous suit à Manosque avec beaucoup d'intérêt, puisqu'on se dit, ah ben oui, tiens, c'est le gars qui était au début des correspondances, et puis on oublie d'ailleurs que vous étiez au début des correspondances.
Ah bah, c'est il y a 20 ans, hein. Même si j'ai fait plusieurs années, j'ai pas fait que la première, mais j'en ai fait plein. Et ensuite, j'ai passé le flambeau à Arnaud Catherine en particulier, qui a pris une partie de mon poste, ce qui constituait uniquement la programmation.
Et on a toujours besoin, effectivement, des conseils éclairés d'un homme de lettres, tout simplement, parce que ça nous permet d'avoir ce critère de qualité en termes de rencontres, en termes de découvertes.
De toute façon, le nombre d'invités a augmenté quand même d'année en année.
Bien sûr.
Mais c'est le critère qui est resté toujours, c'est que ce sont des livres qui sont lus et approuvés. Et qu'il y a une dimension de programmation. C'est-à-dire, aucun auteur n'est invité sans que Evelyne Pravidelot, Olivier Chaudançon, ou Arnaud Catherine, ou Colombe, Bonsen, n'aient lu le livre, l'aient aimé et eu envie d'inviter l'auteur. C'est pas sur pression des attachés de presse ou des maisons d'édition. C'est vraiment une programmation élective.
Et c'est une dynamique que je partage, puisque vous savez que les auteurs qui sont invités ici, eh bien, j'ai lu leur roman et j'ai apprécié leur roman, ou pas apprécié, mais c'est assez rare. Et c'est donc pour ça que je peux en parler tout en détail avec eux et bien développer. Votre actualité, Olivier, on a...
Moi, j'ai un roman Young Adults, comme on dit maintenant pudiquement, pour ne plus dire roman ado et pour tromper l'ennemi. Mais donc, j'ai un roman jeune adulte qui est sorti chez Robert Laffont, dont j'ai parlé hier sur la place d'Hôtel de Ville de manière assez matinale, 10h30, qui s'appelle La tête sous l'eau. Et puis j'ai un débat ce soir avec Nicolas Mathieu, qui a publié chez Actes Sud Leurs enfants après eux, qui est un des très 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 beaux romans de cette rentrée, très impressionnant dans l'écriture, dans le thème. Et donc voilà, on va causer un peu ensemble. Enfin, c'est surtout lui qui va causer, parce que c'est lui qui a un livre qui est dans la lumière en ce moment. Et il se trouve qu'il y a des thématiques qui rejoignent mon travail, tel qu'il peut apparaître dans des livres comme Les Lisières ou Peine perdue, où il y a beaucoup de ponts entre nos manières. Voilà.
Vous avez participé à des siestes littéraires, par exemple?
Oui, c'est vrai, on a aussi une sieste littéraire avec Thomas, à 14h30, avec Bastien Lallemand, JP Nataf,
Maëva Lebert.
Et on va, au milieu des chansons de Bastien et de JP, lire des petits extraits de nos textes respectifs.
Un côté plutôt sympathique et en même temps toujours très, très émouvant et fraternel en termes de littérature, de musique, de bien mélanger tout ça. Merci beaucoup.
Merci à vous,
Olivier, d'avoir été des nôtres. Bon anniversaire, donc, si j'ai bien compris.
Merci beaucoup.
Et puis, avant d'accueillir notre prochain invité, on va faire une petite pause musicale pour le mettre dans le bain, quoi.
Limitation Zone. Forget it, brother.
La voix de Joe Strummer et les Clash pour accueillir Thomas B. Reverdy. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Car la musique accompagne son dernier opus, L'hiver du mécontentement, paru aux éditions Flammarion. Fin des années 70, outre-Atlantique, Hendrix, Morrison, Joplin se sont tus. Et en Angleterre, un mouvement musical émerge, le punk rock. The Clash, The Cure, Stuxy and the Banshees, pour en citer quelques-uns, sans oublier les iconoclastes Sex Pistols, qui revisitent avec énergie un poussiéreux God Save the Queen. À cette époque, la musique joue un rôle important, elle sert de fil rouge au livre de Thomas Reverdy, où chaque chapitre porte le nom d'une chanson emblématique de référence, The Guns of Brixton, Working Class Hero, Anarchy in the UK, Helter Skelter, etc., etc. Et dans ces chansons, de la violence souvent et la révolte aussi souvent, l'hiver du mécontentement nous plonge dans les années 70 dans une Grande-Bretagne en crise, où l'on suit Candice, une jeune comédienne à 16 heures et livreuse de repas à vélo. Elle va traverser ces années sombres, mais d'abord une explication sur le titre, Thomas Reverdy. C'est un emprunt à William Shakespeare.
Oui, en fait c'est un emprunt au journal Le Sun qui décide d'appeler ainsi l'hiver 78-79 qui est marqué en Angleterre par de grandes grèves. C'est la fin du gouvernement travailliste de Callaghan et c'est le début de ce qui va devenir, à la suite des élections générales, l'ère Thatcher. Et donc Le Sun appelle cet hiver l'hiver du mécontentement, et il l'appelle comme ça par référence à Shakespeare, à Richard III de Shakespeare, qui commence par ce vers où Richard III, seul en scène, s'adressant au public, explique que la guerre étant finie, il s'ennuie, il a plus rien à faire, lui le bossu, le monstrueux, le contrefait, le tueur, le sanguinaire, et il va falloir qu'il remette un peu de chaos dans tout ça pour s'amuser un peu.
Alors Richard III, c'est une pièce majeure de William Shakespeare, c'est une pièce qu'ont choisi Candice, Nancy et ses amis, une troupe en fait de comédiennes qui s'appelle les Shakespearettes, c'est croustillant, pour que des femmes pour interpréter ces rôles, dont ce rôle de Richard III un peu particulier. Candice qui va interpréter Richard III, figurez-vous que les Shakespearettes auront l'opportunité de répéter dans un grand théâtre. Elles y croiseront une femme politique pleine d'ambition venue prendre des conseils et d'éloquence. Et c'est une scène très particulière, ce contact avec Candice et son équipe. Je vais vous la lire, vous allez voir. Il n'y a que Nancy qui ne l'a pas vue s'approcher. Elle tournait le dos à la salle et nous regardait. On n'a pas vu tout de suite qui c'était, mais lorsqu'on a compris, on a cessé, les unes après les autres, de dire notre texte. Ça s'est suspendu comme ça, à une moitié de réplique en l'air, jusqu'à ce que Nancy se retourne à son tour et pousse une exclamation de surprise en la trouvant déjà arrivée presque à sa hauteur, à quelques pas seulement de la scène. Elle s'est renseignée un peu, elle a dit qui elle était. Peut-être que c'était pour être polie, elles ont parlé de Richard III. Quelques instants, elle a redit qu'elle trouvait intéressant de faire jouer le rôle par une femme, que dans un pays, grâce à la reine, on pouvait imaginer ce genre de choses, et ça m'a semblé bizarre qu'on justifie ainsi le moderne par l'ancien, l'audace par la tradition, mais c'est sans doute sa manière de penser à elle. Elle a ajouté peut-être que, elle aussi, dans ce monde d'hommes qu'est la politique, peut-être plutôt qu'on ne pense, et puis elle n'avait pas achevé sa phrase. Elle a dit « Mais Richard est un personnage détestable ». Elle m'a demandé ce que j'en pensais, si c'était pas difficile de jouer à cause de cela. J'ai bredouillé, j'ai recraché des préjugés sur le pouvoir, des trucs sans intérêt, j'ai voulu la chercher, la provoquer, je lui ai demandé « Et vous, pourquoi voulez-vous le savoir? Vous n'êtes pas le bon samaritain ?» Elle m'a regardé d'une façon comme si elle pouvait me déchirer, comme une simple feuille de papier, hop, à la poubelle. Il y avait un mépris profond dans le regard de Margaret Thatcher. Une colère contre tout ce qu'elle avait définitivement laissé derrière elle pour réussir, une haine farouche et totale pour tout ce qui pouvait ressembler à de la faiblesse, c'est la haine des forts. J'ai vu passer dans son œil cette haine-là, sous sa mise en pli et son nez pointu. Ses lèvres minces ont fini par sourire, ses yeux sont restés froids. Elle a dit, et je l'écris pour m'en souvenir, elle a souri finement, et je jure qu'elle a dit ça. Personne ne se souviendrait du bon samaritain s'il n'avait eu que des bonnes intentions. Il avait de l'argent aussi. Après la tournée des talons. C'est un portrait de Margaret Thatcher relativement fidèle, Thomas. C'est imaginé.
Ouais, c'est imaginé. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'elle a dit ça. Tous les propos que je lui prête sont des propos qu'elle a tenus, écrits elle-même dans ses mémoires, dans ses discours, dans qu'elle a tenus en interview. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'elle a pris des cours de diction avant la campagne de 79. Elle a pris des cours de diction pour gommer un petit peu son accent du Nord, son accent qui trahissait à la fois son milieu d'origine, son origine géographique et le fait que effectivement c'était une femme dans un monde d'hommes et qu'elle avait intérêt à essayer de ralentir un peu son débit, de parler plus bas pour poser un peu plus son autorité, quoi. Donc ça c'est vrai. Et après le plaisir du romancier c'est du coup d'imaginer cette rencontre avec mon personnage de jeune comédienne et puis cette confrontation, quoi, entre les deux, elle se jauge.
Ce qu'il y a dans votre livre aussi, c'est la situation internationale qui, en ce moment-là, fin des années 70, est particulièrement tendue. En Iran, le Shah est menacé, les islamistes attendent l'horreur. Au Vietnam, les boat people fuient en masse, la Turquie connaît une crise économique et les anciens empires coloniaux n'en finissent pas d'agoniser. Devant le dédain des deux grands USA et Russie qui attendent leur heure, un sommet sur l'Iran a lieu à la Guadeloupe, c'est à la page 132, j'aurais pas le temps de le lire, mais c'est croustillant. Ça veut dire aussi que vous vous êtes renseigné sur la situation géopolitique, évidemment, de la période.
Oui, c'est-à-dire une fois que vous plongez dans le sujet, enfin moi en l'occurrence là dans cette année en Angleterre, mon boulot c'est de faire flèche de tout bois, donc je collectionne des citations, des musiques, on en a parlé, et également des chronologies, des événements, le Jean-Paul Ier qui meurt au bout de 3 semaines là et puis qui est remplacé par Jean-Paul II, enfin et la révolution iranienne, effectivement tout ça qui se passe, il y a la première marée noire au large de la Suède, enfin c'est une fois que vous plongez dans la période, après, il n'y a plus qu'à tirer les fils. Et du coup, ça constitue une espèce de constellation. Il faut savoir ensuite l'organiser. Et qu'est-ce que je décide de retenir? Qu'est-ce qui va informer l'histoire? Qu'est-ce qui va concerner les personnages? Et voilà.
Alors, en Grande-Bretagne, en ce moment-là, la crise s'installe. La solidarité aussi pendant les grèves qui se multiplient. Et la Dame de Fer arrive. Je rappelle le TINA, le fameux « There is no alternative » ou bien « I want my money back ». Qu'elle a prononcé pour l'Europe, tiens, c'est bizarre, ces deux phrases en résonance avec la situation actuelle, Theresa May et le Brexit, par exemple. Et c'est dans cette ambiance que Candice, comme les Britanniques, tente de survivre. Elle est de plus en plus belle, elle perd son boulot en joignant la lutte populaire et en refusant les avances d'un patron entreprenant. Et Candice rencontre un musicien qui essaie de survivre, c'est un personnage évanescent. Jones disparaît juste avant que la représentation théâtrale ne commence. Là aussi, on sent la magie de la musique. Je vais vous lire quelques lignes sur Jones, justement. Jones rêve d'une musique imprévisible comme la vie, sans début et sans fin, une musique pour dire les gens comme ils vont et les choses comme elles arrivent. Les hasards et les vies que nous vivons en aveuglent les uns des autres, à nous croiser sans cesse sans nous voir, à nous rêver, à ne pas trop savoir si cette vie est la nôtre, une musique pour dire ce monde que nous n'avons pas fait, que nous ne faisons qu'habiter et que nous appelons pourtant le nôtre, à nous cogner les uns les autres, à nous rencontrer sans le savoir, une musique pour dire cette fille qui débarque chez lui et ses yeux gris comme la pluie d'Angleterre. Peut-être qu'il reviendra, qui sait, aujourd'hui, il n'y a plus de place pour lui ici. C'est le malaise du musicien, en fait.
C'est l'autre possibilité, c'est-à-dire face à ce monde qui est en train de changer, Candice, elle a une énergie qui la porte, qui lui permet d'essayer de faire sa place en se battant. Elle est portée aussi par son art, par Shakespeare, par le fait qu'elle ait envie de porter ce texte-là sur la scène. Et Jones, lui, il incarne le. Alors, c'est pas une défaite, c'est une sorte de renoncement. Oui, il incarne cette autre résistance qui passe par le renoncement et qui consiste à dire bon, je suis plus bon pour ce monde-là. Je vais aller voir un peu ailleurs. On verra si je peux revenir un jour ou pas. Et donc il part. En quelque sorte, il lui transmet le flambeau aussi. C'est à elle. C'est plus à ce Il n'est pas vieux, mais disons, il est plus vieux qu'elle, en tout cas. Et c'est plus à lui de se battre. C'est à elle qui représente plus cette énergie de la jeunesse. Et puis peut-être aussi, grâce à, Peut-être aussi que sa part féminine, en fait, est plus moderne à ce moment-là, quoi.
Et c'est ce que l'on retrouve dans beaucoup d'artistes, d'ailleurs, et à travers tous les temps. C'est un très beau livre, un livre âpre, Thomas Béreverdi, L'hiver du mécontentement, qui est paru chez Flammarion. Vous êtes en rencontre tout à l'heure, c'était hier, avec François Bégodeau.
Exactement, c'était hier. Je vais participer à la sieste littéraire avec Olivier tout à l'heure.
Oui, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Donc, bonne sieste, mais vous savez que c'est une sieste où l'on ne dort pas.
Voilà, hein. C'est ça.
Donc, c'est une bonne chose, et en tout cas, c'est un très beau roman et vous êtes aussi goncourable. On va croiser les doigts, on ne sait jamais, et de toute façon on a eu pendant les correspondances des auteurs qui étaient goncourables et qui l'ont eu, on en a eu aussi qui ne l'ont pas eu, mais c'est déjà pas mal d'être nommé sur cette ampleur. En tout cas, je me tourne vers Thierry Froger qui lui a écrit, bonjour Thierry,
bonjour.
Vous avez écrit Les Nuits d'Ava à Actes Sud. Ava, c'est bien sûr Ava Gardner, merveilleuse comédienne et merveilleuse actrice. C'est un roman qui nous promène en alternance des années 50 et 60 à l'heure actuelle, en passant par les années 80 et même fin du 19e siècle, dans l'atelier du peintre Gustave Courbet. Le narrateur, c'est Jacques, un historien qui s'ennuie et qui va se lancer dans une quête étrange, retrouver des clichés mythiques mais confidentiels ou disparus d'Ava Gardner. En plein tournage à Rome, dans l'été 1958, l'actrice demande au timide mais extraordinaire chef opérateur Giuseppe Rotun de la photographier nue dans des poses imitant des tableaux célèbres, dont L'origine du monde de Courbet, qu'on verra recevoir cette commande étrange et réaliser cette toile extraordinaire de culot et de réalisme encore aujourd'hui. 30 ans après une séance photo dont l'actrice a demandé à Rotuno de détruire les négatifs, Jacques va tenter de remonter le fil de ces quatre clichés. On est plongé dans le milieu du cinéma hollywoodien, les excès, l'alcool, la drogue, le sexe et l'argent, bien sûr. Première question, Thierry Froger, vous êtes fasciné par Ava Gardner ou par cette époque ?
C'est une actrice qui m'a toujours effectivement plutôt plu.
On disait la plus belle femme du monde.
Le slogan exact, c'était de la MGM, qui est d'ailleurs un slogan assez qui serait impensable aujourd'hui, c'était le plus bel animal du monde. Et donc il y avait ça en gros sur toutes les affiches. C'est étrange d'ailleurs, le plus bel animal du monde. Mais je crois qu'Hollywood a eu beaucoup de mal à digérer Ava Gardner, qui était une sorte de dans tous ses rôles, c'est assez intéressant à remarquer, elle était jamais pure. Elle avait toujours soit du sang indien, du sang espagnol, du sang français, même du sang noir à des moments. Donc comme si Hollywood avait besoin de la métisser, puisque les studios n'arrivaient pas à la digérer, parce que c'était une femme d'une liberté folle. Et d'ailleurs, dès qu'elle a pu, elle a quitté Hollywood, puisqu'elle a vécu en Europe les 30 dernières années de sa vie et s'est installée à Madrid en 1955.
Vous développez d'ailleurs la vie d'Ava Gardner, de l'intérieur. Hein.
Oui, c'est pas du tout une biographie, puisque je me suis documenté, je rebondis sur ce que disait Thomas. Effectivement, quand on commence à écrire, c'est extrêmement intéressant de mêler le réel et la fiction, comme l'envoyait Margaret Thatcher avec un personnage de fiction. Là, il y a des personnages comme le narrateur, Jacques, qui va partir à la recherche de ces clichés, mais qui va passer aussi une nuit avec Fidel Castro.
Une nuit assez extraordinaire. On va pas tout dévoiler, évidemment. Alors, la vie d'Ava, c'est un programme en trois temps. Hein. Trois temps, c'est danser, boire, baiser.
Oui, on peut dire ça. Alors, effectivement, elle n'aimait pas forcément le cinéma. Elle prenait ça avec beaucoup de détachement, contrairement à Marilyn Monroe, par exemple. Elle était très contente quand il n'y avait qu'une prise et pouvait après aller rentrer chez elle et faire autre chose. Donc c'était vraiment un travail alimentaire pour elle, et elle avait une tendance lourde à se déprécier et se jugeait extrêmement mauvaise actrice.
Dans votre livre, Thierry Froger, on croise des réalisateurs, des acteurs, Marilyn Monroe, Liz Taylor, Richard Burton ou Frank Sinatra, bien sûr, aussi Fidel Castro dans la scène étrange. Et puis moi, j'ai choisi un extrait où Ava se baigne dans la piscine d'Hemingway à Cuba. On y voit le style descriptif et sensuel de Thierry Froger, en même temps qu'on imagine avec beaucoup de gourmandise le tableau. Je vais vous lire cet extrait. Une légère brise ridait la surface de l'eau qu'animaient les reflets de bambous et des palmiers, laissant entrevoir la silhouette ondulante d'Ava Gardner, nue peut-être, ou bien portant un maillot couleur chair, qui explorait les profondeurs du bassin où l'eau était plus fraîche. Autour de la piscine, Hemingway et ses autres invités buvaient du scotch et du vieux rhum cubain. Ils profitaient de la chaleur moins étouffante du soir et mélangeaient les odeurs du tabac avec les parfums musqués des hibiscus et ceux légèrement anisés des avocatiers. Et puis la nuit tombait sur tout cela comme une caresse de femme à la laine de marée, à la peau lourde et moite. Le murmure du vent embrassait mollement des voix, des insectes, le bruit des vers et plus loin le bourdonnement d'un moteur qui tantôt semblait s'éloigner, tantôt se rapprocher. L'ombre barbouillait le jardin de pourpre sombre et de violet grillé. Les arbres et les humains bougeaient avec la lenteur incertaine des fantômes et leurs images vibraient encore pour quelques instants sur l'huile noire de la piscine. C'est une belle maîtrise de notre langue, Thierry Froger. Et c'est une très très belle description. On imagine encore plus Ava Gardner se baignant, alors probablement nu.
Alors ça, c'est une légende, mais c'est ça qui me plaisait beaucoup. C'est-à-dire que finalement, il y a beaucoup de faits qui sont peu vérifiés, qui sont répétés, de biographies paresseuses en articles de presse. Et donc, c'est dans ces vides, dans ces insuffisances de la documentation que la fiction peut se loger et peut se déclencher. Et comme dans l'extrait que vous avez lu, au cœur de ce roman, ce sont les images et les fantômes, finalement. Ava Gardner traverse le roman, à la fois avec son corps qui est partout présent, mais ces images d'elle nue, on ne les voit pas.
On ne les voit pas, et de toute façon, ces fameux clichés, on aura du mal à les retrouver. Il y a aussi une vision très particulière de la mafia américaine dans votre livre, avec une scène terrible que je vais essayer de lire et qui concerne Marilyn Monroe. L'imagination rend furieux et parfois le ciel avise. Le Cal Neva Lodge est un casino implanté au bord du lac Tahoe, au milieu des forêts, à la limite exacte de la Californie et du Nevada. En 1962, alors propriété conjointe de Sinatra et Giancana, il était géré par Paul Skinny D'Amato avec l'aimable protection de Johnny Roselli, le représentant de l'outfit à Hollywood et Las Vegas. Le vendredi 27 juillet, en soirée, Marilyn Monroe arriva au Cal Neva Lodge dans l'avion de Sinatra et dans un sale état. Gavée d'alcool et de médicaments, elle déambula tout le week-end comme un fantôme peroxydé. Avec la délicatesse qui les caractérisait, les participants à ce séjour festif en profitèrent pour éprouver la réalité charnelle de ce corps à la dérive. Sinatra prit même des photos sur lesquelles on voyait Giancana et ses sbires qui riaient grassement et s'amusaient avec l'actrice inconsciente qui, de son côté, n'avait pas l'air de beaucoup rigoler. Pendant que se déroulaient ces scènes épouvantables, Joe DiMaggio, l'ex-mari de Marilyn, rôdait comme un loup blessé dans les bois autour de Cal Neva, dont Sinatra lui avait interdit l'entrée. L'ancien joueur de baseball était davantage réputé pour les fulgurances de ses frappes que pour celles de son intelligence, mais cela ne l'empêchait pas d'avoir deviné que Marilyn ne se trouvait pas au bon endroit, ni avec les bonnes personnes.
Alors ça, malheureusement, cette scène épouvantable est connue et n'est pas de l'ordre de la fiction.
Elle mourra d'ailleurs quelques jours après.
5-6 jours après, oui, voilà. début août 62, sans qu'il y ait un rapport de causalité évident. Mais Hollywood, à cette époque-là, était un nœud de serpents et de sales types, quoi. Et la mafia était implantée partout. Et Sinatra était l'un avait une fascination pour tous ces voyous. Sinatra, qui était le troisième mari d'Ava Gardner.
Et il était lié, évidemment, à la mafia aux États-Unis. Alors, c'est un roman qui nous entraîne sur les traces de Jacques, aussi adolescent, et ses premiers émois, mais aussi en Caroline du Nord, quand il se rend au musée Ava Gardner. Et puis, il y a une dernière scène qui laisse le lecteur un peu dubitatif, mais qui donne le sens de la quête de Jacques Pierre. C'est un très beau roman, très bien écrit aussi, et donc, vous êtes présent, Thierry Froger, aux correspondances. Quand est-ce qu'on peut vous entendre?
Cet après-midi à 16h30.
16h30, c'est sur la place de l'Hôtel de Ville.
Place
d'Herbès.
Place d'Herbès, voilà, c'est ça.
Voilà. Donc vous serez, et puis évidemment, votre livre qui est paru, je le rappelle, aux éditions Actes Sud, Les Nuits d'Ava. Thierry Froger, merci d'avoir été mon invité, puis merci aussi Thomas Reverdy. Bonne continuation à vous-même et dans votre carrière, et bien sûr, ici même aux correspondances. Merci aussi Amandine pour la régie. On va se quitter en écoutant Rodolphe Burger dans un extrait de Cat Onoma, juste avant les infos de RFI. Il s'agit de Comme un bruit. À bientôt.
Il y a comme un bruit quand vous passez devant l'immeuble en rose. Vos gants de prochaine.